trust the process.
Trust the process.
And trust the process.
Trust the process.
This process.
Processus, le podcast avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert.
Trust the process.
Trust the process.
Saison 2, épisode 2. Simon Snake Boisvert, allô?
Salut Mathias.
Pag, qu'on voit du coin de l'œil, allô?
Salut les gars.
Salut Pag.
Hey, je suis content. Merci à vous, chers auditeurs. J'ai été agréablement surpris de voir que vous étiez si nombreux pour la première. Fait que finalement, on s'est ennuyé de vous autant que vous êtes ennuyé de nous. Fait que c'est le fun d'avoir cette belle vibe-là.
Moi, j'ai l'impression que l'épisode a fait du chemin, diriez-vous ça?
Du chemin?
Ouais. Pensez-vous que les auditeurs étaient sur Kangaroos? N'oubliez pas que Processus est présenté par Kangaroos. Trouvez la bonne voiture au bon prix grâce à notre vaste sélection d'évaluations et d'avis impartiaux sur les concessionnaires. Commencez votre recherche sur kangaroos.ca. On tient également à remercier Best Buy, le fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique.
On dirait que ça t'excite trop ton Kangaroos, puis là après tu as de la misère à faire du millage.
Je suis un gars plutôt réservé, même si ça paraît pas dans
Non, non, mais là on voit que tu lâches ton fou. Voilà. Beaucoup de sujets, évidemment, avec le tournoi des recrues, le camp d'entraînement du Canadien qui commence, puis il se passe évidemment d'autres choses ailleurs qu'à Montréal. Écoute, Simon, nos auditeurs t'ont forcé à faire quelque chose que tu fais pas d'habitude, puis ils vont continuer à te forcer à faire des choses que tu fais pas d'habitude. Mais on va commencer. Tu es obligé de te taper 2 matchs du tournoi des recrues. As-tu déjà vécu ça dans ta vie avant?
Oui, en 2015.
Ah oui?
Puis j'ai raconté l'épisode, c'était le tournoi des recrues des Oilers d'Edmonton.
Ah, mais le Canadien?
Le Canadien, j'en avais déjà regardé des bouts, mais ça faisait quelques années que je boycottais.
Bon, mais là, boycottais, hein?
Oh, oui, oui,
mais là,
je faisais comme ça existait. Okay.
Mais là, tu sais qu'il y en a une couple qui vont vouloir avoir ton avis sur ce que tu as vu.
Voilà.
Alors, qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux?
Ben que la relève en défense, en tout cas celle qui était présente là, parce qu'on l'a dit, il manque des joueurs, là, tous les espoirs du Canadien n'y étaient pas, mais que la relève en défense est beaucoup plus intéressante que la relève en attaque. Je parle des matchs de la fin de semaine.
Ouais.
Parce que ça inclut pas Dimidov, ça inclut pas Slavkovski qui a seulement 20 ans. On parle de ce que j'ai vu en fin de semaine.
Tu vois, on n'a même pas Age.
Hey.
Et en temps normal, un 21e au total, on en parlerait.
Ben écoute, à l'époque de Benjamin Thibbins, ça serait le meilleur espoir du CH de tous les temps.
Bon, de tous les temps.
Ben non, mais de leur règne, de leur règne, c'est ça.
Bon. Ben vas-y donc, là, cible-moi donc quelques noms qui t'ont plu. Là.
Ben, comme on avait dit la semaine passée, c'est sûr qu'Hudson était pour jouer, dominer, si on peut dire.
Ouais.
Mais on voit que les petites danses à ligne bleue et tout, va falloir faire attention à ça quand tu affrontes une équipe de la Ligue nationale avec un enjeu.
On dirait que c'était trop facile pour lui, puis il s'est permis quelques libertés.
Oui. Puis écoute, c'était pour donner un show, le Centre Bell était plein.
Ouais.
Alors pourquoi pas? Mais c'est sûr que je pense qu'il sait que c'est le genre de truc qu'il va falloir qu'il utilise à petite dose.
Tu trouves pas qu'il a joué différemment ces deux matchs contre Détroit que ce qu'on a vu en fin de semaine?
Ben, il s'est laissé aller, il s'est éclaté un peu plus en fin de semaine.
Ouais.
Mais il reste quand même que contre Détroit, il avait quand même essayé un peu de choses.
Ouais.
Ouais.
Mais écoute, il était tellement fort en fin de semaine que même quand il perdait la rondelle, il a récupéré. C'était un peu ridicule.
Oui, oui, oui. Ouais. Écoute, je pense que vraiment, en toute honnêteté, lui et bien d'autres recrues à travers la Ligue nationale n'avaient pas vraiment d'affaires dans ces matchs-là.
Ouais.
Mais c'est bon d'amener les vedettes parce que tu ne veux pas juste avoir des choix de cinquième ronde non plus. Puis des invités.
C'est ça.
Alors, c'était bon de l'avoir. De la même façon qu'on a amené Randbacker, Mayhew également, Engstrom.
Si je te demande de m'en parler dans ton ordre de préférence, vas-y donc le deuxième.
Pour en fin de semaine, évidemment.
Pour en fin de semaine.
Bien, Hudson, évidemment, numéro 1.
Oui.
J'ai Engstrom, numéro 2, moi.
Ah, OK, vas-y.
Ouais.
Je te laisse aller.
Bien, moi, je trouve qu'il a démontré l'énergie qu'il démontre en Suède depuis 2 ans puis que j'ai toujours aimé. C'est un gars qui joue du hockey impliqué, agressif. On dirait toujours que quand il saute sur la glace, ce qui est pour aller... On dirait quasiment que sa vie est en jeu.
Ce qui n'était pas le cas de Mathias Norlinder.
Non.
Lui, sa vie était pas en jeu.
Oui. Alors, c'est pour ça qu'Engstrom, d'après moi, a un style qui conviendrait bien à la LNH. C'est sûr qu'il va falloir qu'il peaufine des aspects de son jeu, mais ça sert à ça, aller à Laval.
Ouais.
Pendant une couple d'années, je dirais.
Ah, une couple
éventuellement,
d'années.
Hein. Oui, okay. Oui, pourquoi pas. Puis éventuellement devenir un membre de la brigade du top 6 du Canadien en défensive. Moi, j'y crois.
Et lui, tu le vois où à long terme? Tu le vois comme sixième défenseur?
Oui, ou 5-6. Oui.
OK.
Oui, oui, mais un bon 5-6. Bon. Ouais.
Puis pouvez-vous me rappeler, il y a quel âge, Engström?
Là, il doit avoir 21,
je crois, parce que c'était un late quand il était pêché, il me
semble. Il va avoir 21.
Ou quelque chose comme ça. Il va avoir 21.
Je pense qu'il y a peut-être 20, puis en novembre, il y a 21.
Quelque chose comme ça, oui.
Fait qu'est-tu comme en retard sur son développement?
Non.
Non.
Puis, mais c'est sûr qu'il y avait un certain avantage quand même par le fait d'avoir joué dans les rangs professionnels là, sur certains joueurs.
Oui, mais ça, on a déjà parlé. Tu as joué en Suède, puis en Finlande, puis dans... En tout cas, pour moi, c'est pas du hockey de la Ligue nationale.
Qui aurait remporté ta médaille d'argent de bronze?
Écoute, j'irais avec Hanbacker.
Ah oui, hein?
Oui.
Avant Mayo.
Oui, mais c'est serré.
OK.
Dans le sens que Hanbacker, il a bien joué, mais il a peut-être pas... T'sais, je trouve qu'il n'a pas pris assez de risques. C'était des matchs pour prendre des risques. C'était des matchs pour faire des montées à l'emporte-pièce.
Ouais.
Donner un show.
Ouais.
Et il a joué un match qu'on dirait qu'il était en finale de la Coupe Stanley.
Oui. Bon point.
De façon... Il va jouer de façon très conservatrice, mais il a bien joué.
Ouais.
Mais il a joué de façon conservatrice. Je pense que ce qu'on voit de Hanbacker, à moins qu'il décide de sortir de sa coquille, c'est pas mal ce qu'on avait prévu et c'est ce qu'on va voir éventuellement. Ça va être un joueur qui fait très peu d'erreurs, mais qui, évidemment, va avoir très, très peu de flash YouTube, comme on dit.
Oui, c'est peut-être pour cette raison-là que Francis Bouillon a déclaré « Ça n'a pas été notre meilleur défenseur, mais on n'est pas inquiet. »
C'est ça.
Ça m'a surpris comme déclaration quand même.
Mayu, il était correct, sauf que j'ai trouvé que dans sa zone, des fois, je trouve dans l'une.
Ah, tellement. Et c'est comme
J'avais dit ça l'an passé dans un podcast.
Puis je sais qu'il est revenu de son... Tu sais, il a eu son 10 minutes de mauvaise conduite, il a manqué, et sa présence après, je pouvais peut-être l'excuser. On dirait que là, son temps de réaction, il avait perdu le focus.
Il est dans l'une des fois.
Oui.
Mais... Ça n'a pas paru le dernier match contre Détroit.
Oui.
Fait que tu sais, à un moment donné, c'est pour ça que je te dis, ces matchs de recrues-là, faut en prendre puis en laisser. Non, je laisse tout.
Mais bon, là, tu viens quand même de te prononcer.
Ben non, mais on avait dit la semaine passée que je te donnerais mes impressions des matchs.
Ouais.
Mais de là à dire, moi, que ça change mon opinion, ça fait bouger les grilles par rapport à mon opinion sur un joueur, du tout.
Non, c'est ça. Là, je pense que l'aiguille est... Là, je vais te mettre dans une situation extrêmement délicate.
Ah oui, OK.
Comme tu sais que j'aime ça, hein, Vague?
Mm-hmm. Yep.
Tu vas me faire un top 3 à l'attaque.
De ce que j'ai vu?
Ouais. Aha! Un top 3 honnête. De ce que tu as vu en fin de semaine.
Ben, le premier trio.
Attends. Ouais. Là, je ne demande pas de mettre tes trios dans l'ordre. Je te demande de faire un top 3 des joueurs. Nomme-moi, c'est qui ton premier, l'attaquant pour toi qui a le mieux joué cette fin de semaine-là?
Écoute, moi, je te disais, ça se fait entre Farrell et Beck.
Non. Je te demande pas si ça se fait entre qui. Ça a été qui pour toi qui a offert la meilleure performance en fin de semaine?
Probablement Beck.
Bon. Hey, on le savait-tu? On n'avait même pas besoin de le nommer qu'on savait.
Les verres sont tirés.
Pourquoi? Un peu de bonne foi. On le sait que tu le vois comme quatrième trio.
On parle la fin de semaine.
Bon.
On parle la fin de semaine.
Qu'est-ce que tu as aimé de Beck en fin de semaine pour le mettre premier?
Ben, l'ensemble de son jeu, parce qu'il est complet dans toutes les zones. Et il a démontré quand même des belles choses en attaque.
Ah, bon.
Qu'il ne démontrera pas autant dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale éventuellement.
Se pourrait-il qu'il se soit légèrement amélioré?
Non.
Trouve pas les habiletés individuelles. Je ne dis pas qu'il va devenir offensif.
Non, mais tu affrontes des clubs dans des dans un contexte relativement relax de début de camp d'entraînement. Tu affrontes un paquet de joueurs et tu joues avec un paquet de joueurs qui n'atteindront jamais la LNH.
Si c'est bon pour Hatton, c'est bon pour.
Oui, mais c'est bon pour Hatton. C'est pour ça que je te dis, j'en tire aucune conclusion de ça.
Fait que ça a été ton meilleur à l'attaque.
Oui.
Ton meilleur.
Oui, après Farrell, après Heinemann.
Bon, vas-y, parle-moi des. Puis là, les deux, Farrell et Heinemann. Pour moi, dominants, ils ont été bons, mais c'est des gars qui n'avaient pas d'affaires là non plus. Là.
Ben, il aurait dû être dominant.
Ouais.
Il aurait dû avoir 3 buts, 2 passes. Ouais. Ils n'ont pas été assez. On les voyait. Ils étaient bons. Mais Farrell est rendu à 22 ans.
Ben, c'est pour
Heinemann
ça.
Aussi. C'est, écoute,
c'est pour ça que je te dis que, tu sais, un Beck sans être ton préféré, puis que tu le vois toujours sur une 4, puis c'est correct, puis moi je le vois entre la 3 puis la 4, ben quand c'est rendu que c'est ton kid de 20 ans qui tire ce trio-là avec des gars qui ont joué un an dans la Ligue américaine, ça en dit long.
Ça en dit long sur Farrell et Heinemann, plus que ça en dit long sur Beck.
Ouais. Bon, on va aller dans l'autre catégorie.
Ouais.
Méchard et Kinney.
Ben, encore là, Méchard aurait dû être aussi bon que Beck. Ils ont le même âge.
Puis il a été
repêché. Ils viennent
avant,
de la Ligue Ontario. Ouais. Il a été repêché quelques rangs avant. Ouais. T'as des flashs avec Méchard, mais c'est un joueur de périphérie.
Ah, tellement.
Écoute, moi je prévois même pas une bonne saison pour lui à Laval.
Ah non, hein?
Non.
Non. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de poser des questions sur les raisons de son repêchage? Parce qu'on dirait qu'il y a tellement de bons joueurs qui ont été repêchés après lui, ça devient comme une ben trop une grosse interrogation.
Je sais pas, le chum de Slavkovski?
Ça se peut-tu,
ben,
ça?
Ils l'ont eu à l'œil, c'est sûr qu'ils l'ont eu à l'œil. Puis ils ont
c'est dans ce sens-là là, que je l'ai
commencé
dit,
à l'aimer parce qu'ils surveillaient l'autre. Puis ils ont dit, hey, il est peut-être pas pire, lui. Ah, on a un gros, on peut en prendre un plus petit.
Ça arrive souvent que tu surveilles un joueur dans une équipe puis que... Ton attention est portée vers quelqu'un d'autre dans la même équipe.
Ouais.
Alors, des fois, tu vas voir dans les repêchages, et ça, c'est dans n'importe quel sport, et ça se voit souvent au football américain, tu vas scruter le corps arrière, tu repêches le corps arrière, mais oups, en cinquième monde, tu repêches un de ses receveurs de passe.
Ouais.
Alors, c'est la même chose, je pense, dans les compétitions internationales de hockey, c'est la même chose dans les pays européens, surtout où les visionnements des joueurs ne sont pas aussi fréquents que dans la Ligue canadienne de hockey.
Et, ben là, t'as Coolidge qui a été repêché après.
Oui.
Tu as Beck qui a été repêché après. Tu as Mathieu Poitras. Tu as Tristan Luneau. Tu as Minton. Et ça, écoute, imagine s'il l'avait perdu. Tu sais, moi, je le voyais en début de deuxième tour. Lane Hutson.
Oui.
Quasiment 30 ans plus loin.
Oui.
C'est quand même hallucinant.
C'est hallucinant.
Une chance qu'ils l'ont eu. Une chance que Edmonton a donné un choix de fin de deuxième tour pour notre ami Brett Kulak, parce qu'il n'aurait pas eu ce choix-là.
Mais Marvin, il aurait peut-être ajusté leur flûte s'il l'aimait tant que ça.
Ouais.
Mais ça, c'est à voir.
Ouais.
Bon, pour ce qui est de Méchard, moi, ce que je ne comprends pas dans son repêchage, c'est que c'était un joueur de périphérie.
Ouais.
Et un joueur de périphérie, tout homme de hockey expérimenté, sait que les joueurs de périphérie, historiquement, tu sais, des fois, quand je te dis, il faut retourner en arrière.
Ouais.
Moi, là, quand je fais des erreurs dans mon repêchage, je me dis tout le temps, pourquoi ça n'a pas marché?
Ouais.
Quel signal d'alarme j'avais vu à l'époque que j'ai choisi d'omettre de mon évaluation. Et je me suis rendu compte que les joueurs de périphérie, c'est mortel. Écoute, il faudrait faire une recherche, là. Mais les joueurs de périphérie, de juniors, qui ont eu du succès dans l'LNH, il n'y en a pas gros.
Fait que tu le prendrais pas dans ton pool de hockey, là.
Je le prendrais même pas au Rocket.
Bon.
Ouf.
Ouais. Moi, c'est le genre de joueur que, pendant qu'il y avait encore de la valeur, que j'aurais essayé d'échanger. Parce que quand même, un gars choisi 26e a une certaine valeur. C'est un joueur, ça, c'est vraiment un choix perdu.
Ouais, je pense que oui.
Ça arrive.
Aucun espoir?
Aucun.
Oh là là.
Aucun. Aucun, parce que, oublie pas, Pag, faut toujours que tu analyses qu'est-ce qui est en avant de lui à Montréal. Puis les gars en avant de lui sont jeunes.
Ah non, c'est sûr.
Ouais. Tu sais, c'est sûr que À l'époque où le Canadien avait plus de difficultés, il y aurait peut-être eu un chemin pour aller jouer quelques matchs puis essayer de faire ses preuves. Mais là, il va avoir de la misère à faire ses preuves. Il faut qu'il en dépasse du monde.
C'est sûr.
Il faudrait qu'il arrive à Laval cette année qu'il fasse 25 buts. 20-25 buts.
Ouais,
ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas.
Parlant de poule, les gars, vous aviez quelque chose à annoncer?
Ben oui.
Pour les membres Patreon, la semaine prochaine.
Ben écoute, on a tout le temps l'émission en Bonnie. D'ailleurs, je pense qu'il y a un souper qui va se faire tirer cette semaine, d'après Olivier. Et l'émission Bonnie, c'est les questions de Simon, que Simon répond aux questions des abonnés. Et la semaine prochaine, on fait une heure d'extra au lieu de 40-45 minutes. Et c'est un spécial pooler. Alors, Simon va prendre vos questions sur les pots. Moi, je vais vous donner 5 clés que je pense qu'ils peuvent vous aider à gagner votre pool. Alors, pour les abonnés, la semaine prochaine, on a une heure. Je pense que la date va bien. C'est avant que les gens commencent leur pool. Alors, c'est ça.
Donc, pour éviter toute confusion, cette semaine, il y a un épisode régulier qui sort sur Patreon le vendredi matin.
Ouais, ouais.
Et c'est donc l'épisode suivant qui sera sur le pouls. Évidemment, ça va de soi. On vous invite à vous abonner sur patreon.com/processus pour retrouver les épisodes supplémentaires à chaque vendredi matin. Et également avoir votre chance de poser vos questions directement au gars. Snake fait un habile travail de scanner toutes les questions, puis l'épisode d'environ 40 minutes est disponible chaque vendredi, puis c'est très intéressant à chaque semaine. C'est vraiment un épisode bonus. Incroyable.
Et là, pour le pool, ben c'est ça, c'est une heure. Ben écoute, on va continuer avec les pools. Trois gars qui seront probablement pas dans vos pools ces prochaines années, mais quand même, il faut en parler. C'est le trio des costauds au tournoi des recrues. Oui. On va conclure avec ça. Oui. T'as un Tarp qui est plus jeune que les deux autres, qui a compté deux buts. T'as évidemment Tuck qui est un peu plus vieux. Qu'est-ce que t'as pensé des membres de ce trio-là?
Moi, c'est Tarp que j'ai aimé le mieux.
Oui.
Parce qu'il a quand même démontré un certain potentiel offensif.
Ouais.
Même si encore là, il faut prendre ça avec un grain de sel.
Mais gros bonhomme droitier, c'est ça.
C'est qu'à un moment donné, là, ouais, dans la construction d'une équipe, là, tu sais, t'as un top 9 qui est là pour scorer des buts.
Ouais.
Ce qui joue après ça sur la quatrième ligne, puis les réservistes, là, les quatre derniers attaquants, les attaquants ouais, 10, 11, 12, 13.
Ouais.
Là, ça te prend un bon amalgame de ouais, joueurs. Tu peux avoir un spécialiste de l'échec avant, tu peux avoir un gros gars tough qui ouais, est capable de jouer au hockey, il faut qu'il soit capable de jouer au hockey. Tu peux avoir un gars de désavantage numérique, peu importe. T'sais, c'est des gars qui vont jouer quelques minutes par match, il ne faut pas qu'ils te misent, puis il faut quand même qu'ils t'apportent un peu quelque chose. Puis on le voit en série,
ouais,
les équipes qui gagnent la Coupe Stanley, le quatrième trio contribue.
Voilà.
Alors ça, c'est pour ça que moi, tu me donnes... Je ne sais pas s'il va faire la Ligue nationale, ouais, Thorpe. Mais Thorpe, pour moi, a plus de valeur ou de chance ou de probabilité de faire la Ligue que...
Méchard.
Farrell.
Et c'est un gars qui a été repêché au cinquième tour. Tu sais, je prends l'exemple, puis on a le chandail derrière. McCarron à Nashville, il vaut son pesant d'or sur un quatrième trio. Est-ce que tu gaspilles un choix de premier tour pour... Non.
Non.
Mais avec un Thorpe, ça devient une espèce de McCarron sur ta 4, repêché au cinquième tour, ben c'est un méchant boni.
C'est ça. Ben écoute, c'est ce à quoi ça sert, les choix de cinquième tour. C'est de lancer des dards sur quelque chose de... Ah oui! C'est de lancer des dards sur quelque chose de précis que tu recherches.
Dans ce cas-ci, on lance des torpilles, mais...
Toi, tu veux encore signer des dards cette année, hein? C'est
ouais,
ça l'affaire.
C'était bien fun.
Florian Jacquet, comment tu t'es trouvé?
Encore là, c'est un peu dans le genre de Thorpe. Lui, il s'en va à Laval dès cette année.
Ouais.
Fait qu'il est quand même en avance. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Moi, je pense que c'est une bataille qui va se faire entre ces gars-là, entre ces trois gars-là, en incluant Tuck, pour une place sur le quatrième trio éventuellement du Canadien. Et je pense que c'est celui qui démontre peut-être les meilleures qualités d'ensemble, le meilleur instinct ouais, offensif qui va faire la Ligue, parce que c'est trois durs à cuire.
Un peu plus dynamique que Tuck, qui semble un peu plus quand même cérébral.
Tuck, là, il a un bon lancer, puis c'est tout. Alors lui, je crois que c'est un gars peut-être qui est susceptible de jouer des matchs dans la LNH, mais peut-être pas un grand nombre de matchs. Et si il fait l'équipe éventuellement, ça va être sur un quatrième trio et rien d'autre.
Bon.
Parce que là, tu parles d'un gars qui peut faire 5 buts par année, là.
Donc, Alex Tuck, il ne sera pas Alex Tuck.
Oh non. Oh bon, non, sûrement pas.
Fait qu'on pourra le surnommer le frère Tuck. Pour les plus vieux.
Ça en fait des jeux de mots.
Je commence à faire des jeux de mots, moi, là. Là ouais. Je pense que je vais me faire vacciner contre les jeux de mots. Ça n'a plus de bon sens.
Moi, ça fait longtemps que je le suis.
Ouais. Qu'est-ce qui me prend avec les jeux de mots? Je sais pas ce qui se passe.
C'est Pag qui t'a contaminé.
Pag? Tabarnouche, en tout cas. Bon, il était temps que la pause arrive. Trust the process. Bon, ben, deuxième bloc. Et là, après avoir vécu des moments excitants, à scruter, à analyser les espoirs du Canadien au tournoi des recrues, Simon, maudit chanceux, tu vas enfin pouvoir regarder des matchs préparatoires avec les espoirs du Canadien.
Oh non.
Ben non, garde, pour le bénéfice de nos
ben
auditeurs.
Ben oui, c'est pour ça. C'est parce que je les aime, les auditeurs. Parce que ça fait bien des années que je n'ai pas regardé du pré-saison.
Ben écoute, l'année passée, c'est juste drôle, puis je pense que j'en ai déjà parlé. J'évoquais Norlinda, qui avait un bon camp. Il y avait un bon camp.
C'est ce qu'on m'a dit.
Et je sais que le Canadien voulait l'utiliser dans un rôle sur une deuxième vague en supériorité numérique.
Mm-hmm.
Et j'étais comme, as-tu vu Norlinder quand même? Non, je regarde pas, je regarde pas, je regarde pas. Puis finalement, t'as bien fait pour regarder, mais là... Mais là, tu vas regarder. Bon.
Je vais regarder pour faire des commentaires, comme je viens de les faire sur le tournoi des recrues. Mais sans en tirer de conclusion hâtive.
Non, mais là, on va regarder peut-être ce qui se dessine.
Ouais, ça,
on va parler un peu plus du Canadien dans son ensemble, pas seulement des espoirs. Tu vois quoi comme trio et comme lutte à l'attaque?
Moi, je vois pas grand lutte dans le sens que t'as pas mal un groupe de 12 attaquants, je pense, qui est coulé dans le béton.
Ah, je me vois donc des trios, là, pour...
Ben, mettons, le Caulfield, Suzuki, Slavkovski. Ouais. Peut-être Lainé, Doc, Newhook.
Oui, c'est parfait. C'est top assez unanime.
Après ça, ben là, rendu au troisième trio, peut-être Dvorak.
Ouais.
Joshua Roy.
Ouais.
Puis, qui d'autre?
Armia.
Armia.
Ouais.
Puis la quatrième, ben quoi? Gallagher, Anderson, Evans.
Voilà.
Tu sais, on a 12 attaquants.
Ouais.
À peu près. Là.
Fait que là, il n'y a pas. Puis de toute façon, qui cogne à la porte vraiment comme attaquant, à moins de blessures? Tu sais, Beck, si jamais il y a une blessure dans un rôle de soutien, qui... Heinemann, tu sais, c'est...
Ouais, là, on rentre vraiment dans les joueurs qui vont jouer en début de saison uniquement s'il y a eu des blessures.
Barry Boulet, tu l'aimes-tu, Barry Boulet, ou...
Ben, Barry Boulet, je considère que c'est un joueur 4A.
4A, c'est beaucoup, ça, 4A.
Ben, 4A, c'est trop fort pour la Ligue américaine, passé pour la LNH pendant 82 matchs.
Un Charludon, là. Il était bon dans la Ligue américaine.
Mais plus utile, je te dirais.
OK.
Moi, Barry Boulet, d'après moi, c'est un joueur à utiliser à petite dose. C'est pas un gars que tu peux jouer 82 matchs, mais c'est un gars que tu peux rappeler. Tu sais qu'il va te donner un, deux, trois matchs vraiment pas pire. On l'a vu à Seattle, on l'a vu à Tampa dans le temps. La preuve, Tampa le perdait au balotage. Mais après ça, quand il était soumis au balotage, Tampa était allé le chercher. Alors, tu vois, ça, c'est exactement le genre de joueur dont tu as besoin pour... De rappel, en cas de blessure, que tu fais jouer sur un quatrième trio, il n'aura pas l'air fou, mais c'est pas des gars que tu peux mettre 82 matchs.
Mais au moins, ce qui peut avoir d'excitant à l'attaque, si les gens veulent avoir un peu des petites nananes, c'est que tu as Slavkovski, tu veux voir qu'est-ce qu'il va faire à sa troisième année. Doc, il va être dans quelle forme?
Les débuts de l'année.
Les débuts de l'année avec le Canadien, fait qu'il y a quand même des trucs qui sont
il y a quelque chose à se mettre sous la dent. Mais surtout, je pense, le camp d'entraînement du Canadien, les matchs hors concours, c'est les défenseurs. C'est ça que les gens veulent voir.
Ouais.
Les gars dont on a parlé, Hudson, Ranbacker, Mayou, Engstrom.
Ouais.
On sait qu'Engstrom ne fera pas l'équipe, mais parmi les trois autres, ça se peut qu'il en garde un ou deux.
Là, tu sais que Barron doit être soumis au balotage.
Oui, Barron, il reste. Donc, à moins d'être échangé.
Toi, comment tu vois les trois paires et le septième défenseur?
Ben, Madison Goulet.
Ouais.
Tu transfères Goulet à droite, mais
Madison comme Goulet. Comme il est en deuxième moitié de saison.
Ouais, c'est ça. Ensuite, David Savard, probablement sur une deuxième paire. Ouais. Là, la question est de savoir, est-ce qu'on se risque à faire jouer Hudson 20 minutes par match?
Ben, c'est ce que Martin Saint-Louis a fait en fin de saison quand même. C'était pas seulement 20, c'était 22-23. Là.
Ouais, mais c'était deux matchs.
Ouais.
Puis, tu sais, il va y avoir des étapes à suivre. Hein, je fais une parenthèse ici. Oh oui. Tu sais, il y a le tournoi des recrues. Après ça, tu as le camp d'entraînement.
Ouais.
Après ça, tu as octobre-novembre. Remarque, il y a des joueurs juniors, des fois à 18 ans ou 19 ans, qu'on garde avec l'équipe. Ils partent en peur au mois d'octobre. Là, les poolers se disent, on aurait dû le prendre. Ouais. Et oups, là, ils frappent le mur.
Ouais.
Et après les fêtes, là, c'est vraiment, tu sépares les hommes des enfants. Et après ça, il y a les séries.
Ouais.
Fait que tu sais, il y a beaucoup de couches là, dans les prochains mois.
C'est sûr.
Alors, l'idée, c'est de prendre ça couche par couche puis de voir qu'est-ce qui arrive. Alors, est-ce que Hudson pourrait commencer la saison justement sur une deuxième paire avec Savard? C'est pas impossible.
Ouais.
Sur certaines deuxièmes unités de jeu de puissance.
Ouais.
Ça, lui,
c'est sûr.
Je te dirais, là, si, mettons, tu avais un alignement de 25-26 joueurs, là, tu sais, un peu comme au baseball ou au football, des unités spéciales.
Ouais.
C'est sûr qu'Hudson, assurément... Deuxième unité de jeu de puissance, je me poserai même pas la question, je le ferai jouer toute l'année.
Okay.
Mais là, l'idée, c'est de dire, il n'y a pas juste le jeu de puissance.
Ouais. J'imagine que ta troisième paire, c'est Barron à droite avec un de Jacky et Struble.
Oui, c'est Strobel, il a quand même joué beaucoup l'année passée.
Mais ça ralentit un peu en deuxième moitié de saison.
Ça ralentit encore que... là, mais peut-être que c'est des genres de gars. Tu sais, souvent, les troisièmes paires, tu peux alterner les joueurs.
Ouais.
Ce qui fait qu'en fin d'année, tu regardes les statistiques en fin d'année des équipes, tu as trois gars qui ont joué 55 matchs.
Oui.
Why not?
Si, disons, un Strobel
revient
à son niveau de avant qu'il commence à faiblir un peu, est-ce que tu serais tenté de le mettre avec Savard contre les meilleurs trios adverses et de mettre Hudson avec, du moins pour les matchs à domicile, Hudson avec Barron, le protéger un peu puis le mettre en deuxième vague?
Oui.
Ça serait ce que tu privilégierais?
Quelque chose de genre-là.
Parce que sinon, Hudson avec Savard va inévitablement se retrouver
contre les meilleurs trios. C'est ça. Mais peut-être au mois d'octobre, ça peut s'essayer.
Okay.
Mais dès que tu vois que le gars risque de frapper le mur, là, tu procèdes.
Okay.
Ou, une autre philosophie, c'est de le commencer tranquillement puis de le monter.
Ouais.
Tu sais, les deux théories se valent parce que de toute façon, cette année, le Canadien ne fera pas les séries et ce n'est pas important qu'il ne fasse pas les séries.
Ouais.
La seule chose qui est importante cette année, c'est que les 7, 8, 9 joueurs de 25, 26 ans et moins de l'équipe qui vont former le noyau des prochaines années progressent. Ils ne progresseront pas tous au même rythme. Il y en a qui vont peut-être décevoir. Mais l'important, c'est que dans l'ensemble, on voit une progression. Peut-être pas des 8 joueurs, mais au moins de 6 gars sur 8 ou 7 gars sur 9.
Serais-tu en train de me dire que tu souhaites qu'il soit dans le mix, toi?
Bon.
Moi, le fameux mix.
Je ne pense pas qu'il va être dans le fameux
mix.
Non,
mais le fameux mix, écoute, ça pourrait être la Coupe Stanley comme le,
c'est parce
le 25e rang.
Parce qu'à un moment donné, là, tu sais...
C'est la nouvelle expression à la
mode. Oui, là. Parce que là, Jeff Molson, il y a un produit à vendre, puis ça, je le comprends. Puis c'est bien carré de même. Sauf que, tu sais, il parle de l'an 3 de la reconstruction.
Ouais.
Bon, bien là, quand même, l'année où il a congédié Bergevin, c'était peut-être pas une année de reconstruction, mais c'est une année où le club était faible. Tu sais, à un moment donné, là, puis là, ça s'en vient, Bill Armstrong avait dit, il y a, quoi, l'année passée ou il y a 2 ans, qu'une reconstruction, ça prenait, quoi, 7 à 10 ans?
Ah, puis même plus des fois
même
avant
plus
la
des
coupe.
Fois.
Ouais.
Avant la coupe.
12 ans.
On parle de coupe. Oui, là, il va fort, parce que là, 12 ans, ça veut dire que ton Slavkovski a 32, là, faut pas capoter. Mais un 7 ans, moi, je disais ça sur ton blog dans le temps, 7 ans à partir du moment où tu réalises là, que tu es d'un bas fond et que là, tu ne fais plus de rapiessage. Alors oui, le Canadien est rendu peut-être à l'an 3,5, parce qu'il y a quand même une demi-saison de Jeff Gordon can use, à l'an 3,5 du... On ne rapièce pas, on bâtit.
Ouais.
Alors, il resterait quand même un autre 3 ans et demi, ou un autre 3-4 ans, je dirais, avant que vraiment les gens se disent « Ouais, là, il faut y aller pour la coupe. » Fait que cette année, pour moi, c'est uniquement la progression des jeunes qui les victoires défaites. Oui, tu veux monter un peu au classement, mais quand même qu'ils finiraient 23, 24e au classement, c'est pas grave.
Moi, il y a une déclaration de Jeff Molson qui m'a quand même... Mais elle m'a surpris, oui et non. Quand il a dit ce que j'ai appris dans le processus, excuse-moi, c'était pas un jeu de mots volontaire, c'est à quel point j'ai découvert que le partisan était prêt à une reconstruction et avant de l'entamer, cette reconstruction-là, j'étais un peu anxieux de savoir quelle allait être la réaction de nos partisans. Se pourrait-il qu'il a mal lu son marché?
Il y a peut-être une histoire de la poule et l'œuf là-dedans. Puis il y a peut-être un mix de bien des choses.
Ah.
Oui. Tu sais, rapporte-toi en 2009.
Ouais.
Il était revenu dans le giron, Molson, ou à peu près.
Centenaire.
C'était le centenaire. Et là, Bob Gainey est allé chercher Scott Gomez et avait signé Mike Camilleri, Al Gill, Brian Gianta, dans le but de combler la perte là, de Kovalev à l'époque et tout.
Koivu et compagnie.
Bon. À l'époque, je me disais, puis quand on y repense aujourd'hui, si le Canadien avait changé à la date limite des transactions, les Kovalev, Koivu, Markov et compagnie, Plekanets, imagine-toi que la reconstruction, elle aurait débuté là.
Ouais.
Sauf que là, on se dit, oui, mais c'est l'année du centenaire. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, l'équipe, on dirait, la direction de l'équipe se mettait trop de contraintes. Puis il vivait dans le passé en toujours en se disant « Oui, mais le Canadien ne peut pas finir dernier. Oui, mais. » Il avait quand même fini dernier, je pense, ou presque, en 2001. En 2001, ça avait mal été. Bon, mais on n'était pas guéri de ça. Le moindre petit soubresaut, on se disait tout le temps « Ah, ben là, on est revenu dans le coup. »
Mais aurais-tu voulu une reconstruction avec Bob Gainey? avec tout le respect.
Non, mais, c'était le moment de le mettre à porte. Là.
Ouais.
Puis de repartir avec quelqu'un d'autre.
Ouais.
Bon. Moi, j'ai pas mon dire. Puis là, on remonte loin. Quand c'est André Savard qui aurait dû mener le processus en 2003, mais il était plus là. Alors, l'idée, c'est que c'était le moment idéal pour partir de la reconstruction. Puis aujourd'hui, tu sais pas, peut-être que le Canadien aurait eu une ou deux coupes. On ne sait pas.
C'est, le marketing l'a emporté en 2009.
Oui. Puis le marketing a continué à l'emporter. Marc Bergevin, en 2018, qui a été extrêmement timide avec son mot « réinitialisation »,« reset ».«
Reset on the fly ».«
Reset on the fly
ouais. ».
Il a été extrêmement timide avec ça. Puis tu le voyais, c'était timide. On repêche Kotkaniemi. Oh, on le met dans l'alignement tout de suite. Ah, on a fait notre reset. Kotkaniemi, il y a 18 ans, il est en line-up. Il n'y avait pas d'affaires dans le line-up, Kotkaniemi.
Mais il y avait eu un bon camp d'entraînement. Ouais, tu n'avais pas vu son camp d'entraînement, évidemment, parce que tu regardais pas.
Non, mais
bon,
j'avais mon opinion là-dessus. Fait que, tu sais...
Deux rendez-vous manqués, donc. 2009-2018.
Oui. Complètement manqués. Puis là, on dirait que... Là, avec le mauvais début de saison 2021-2022, après la finale COVID, que j'appelle ça, on dirait que M. Molson s'est dit « OK ». Puis là, il y a eu une tendance aussi, il ne faut pas oublier, à travers la Ligue, c'est devenu de plus en plus un genre de buzz, les reconstructions. Regarde là, toutes les équipes qui coulent à pic quasi volontairement.
Tu sais, tu as eu l'exemple des Pingouins, tu as eu l'exemple de Chicago… T'as eu l'exemple de Colorado.
Même les Kings.
Comment ça se fait que ça ne s'est pas rendu à Montréal, cette rumeur-là?
C'est parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, on était pris dans les vieilles mentalités.
Même Toronto?
Oui, mais on était encore à Maurice Richard qui passe le flambeau, à Béliveau qui passe le flambeau à La Fleur.
Ouais.
Là, on dirait qu'on s'est mis à la mode du sport moderne, de la Ligue nationale moderne qui est... Il y a des équipes qui... prétendantes, il y a des équipes en construction, puis on s'est rendu compte que les équipes qui sont au milieu, c'est un no man's land, c'est un désert duquel il est très difficile de sortir. Puis d'ailleurs, cette année, je fais juste une petite... pas une petite promotion, mais une petite annonce. Cette année, il va y avoir un segment une fois par semaine. On va prendre une équipe, donc 32 semaines, ça va être pas mal la saison, et on va faire l'état de cette équipe-là et où elle est rendue dans sa possibilité de gagner la Coupe dans les années suivantes.
Ouais.
On va commencer par les meilleures équipes
et
on va descendre jusqu'à les équipes jusqu'aux équipes de bas-fond. Puis le milieu de peloton, là, j'ai commencé à analyser ça un peu. Il y a une dizaine d'équipes en ce moment. Là. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir.
Ouais. Puis tu l'as-tu prêché dans le désert, toi?
Oui.
Écoute, ça fait 15-20 ans que tu parles de reconstruction et c'est enfin arrivé à Montréal. Combien
d'années plus tard? Puis là, les gens ont embarqué... Parce que, encore là, c'est un mélange. L'équipe de marketing, les journalistes affectés à la couverture, la direction de l'équipe. T'sais, à un moment donné, il faut que tu crées cette ambiance-là qu'une reconstruction, c'est pas péché.
Non. Parce que là...
Mais avant, on dirait que c'était péché, une reconstruction.
2009, là, rappelle-toi, là, Price.
Ouais.
Tu venais de repêcher Pacioretty, McDonough, Subban.
Ouais.
Markov était pas si vieux que ça. Tu aurais eu l'occasion de bâtir encore plus fort.
Mais justement, Markov et les Canettes, ça avait de la valeur. C'était peut-être le temps, justement, de les échanger et d'aller chercher des premiers choix qui auraient complété. Parce que moi, je te disais à l'époque, Mathieu, je te dirais Price, Subban, Pacioretty, Gallagher, je te disais, ce n'est pas suffisant.
Ouais.
Ça te prend 8 à 10 joueurs. On le voit, là, c'est des noyaux de 8 à 10 joueurs clés. Ouais. Puis moi, je te disais, la seule façon d'aller chercher ça, c'était d'échanger Markov et les Canettes qui, eux, n'étaient pas dans le groupe d'âge.
Ouais.
Des joueurs suspensionnés.
Bon. Parfait. Écoute, ça complète bien notre deuxième bloc.
Oui, moi, j'ai des petites questions pour vous, les gars.
Des petites questions.
Ben oui, vas-y, Pat.
J'ai deux qui me viennent en tête. Je reviens au line-up que vous avez proposé en début de
saison. À la formation.
La formation, voilà. Tu sais, dans l'ère Marc Bergevin, puis là, je vais te chatouiller un peu en disant ça, Snake, mais il disait souvent qu'il bâtissait son équipe en mode maillon faible plutôt que maillon fort en premier, tu sais, en renforçant un bottom six. Puis là, j'étudie un petit peu ce que vous dites, puis avec un Anderson sur la 4, j'ai l'impression qu'on est quand même en voiture peut-être un peu plus que ce qu'on pourrait s'attendre. Est-ce que je rêve en couleur ou est-ce qu'on a un bon maillon faible en ce moment?
As-tu un message à nous lire ou...
Non.
OK. Tu viens de dire qu'on était en voiture. Là. Je ne sais plus.
Pac, je ne suis pas trop inquiet par le groupe d'attaquants, moi. Moi, c'est ce qui fait en sorte, ce qui fait que je crois, et je ne suis pas le seul, que le Canadien ne fera pas les séries, c'est que la défensive, le Jello n'a pas pris encore.
Il y a du travail.
Il y a des gars très, très jeunes, il y a des gars un peu plus âgés. Tu sais, c'est un... C'est un mix, hein, c'est le mot du jour.
Oh.
C'est un mix.
Mot de l'année.
Ah oui, oui, mais moi, après cette semaine, ça va être fini, là.
Non, non, mais tu vas voir que toute l'année, ça va être le running gag partout, là, pas juste ici, là.
Mais le mix du à la défense, je crois, il est loin d'être concret et c'est quand même à partir de ça que tu peux décider que tu peux décider où s'en va une équipe. Parce que si une équipe accorde beaucoup de lancers, comme le Canadien, beaucoup de buts, bien, t'as beau avoir une bonne attaque, tu vas perdre 6 à 4.
C'est sûr.
Mm-hmm. Puis mon autre question, toujours par rapport à la formation, clin d'œil, Mathias,
merci.
C'est que j'étudie ce que vous avez dit, puis on dirait qu'il manque un peu de papier sablé. Puis là, je regarde la disponibilité, puis je vois juste Pezzetta ou Jack Eye dans les matchs qui vont avoir besoin d'un peu plus de robustesse, qu'on veut envoyer un peu plus un message, ou en fin de saison, où est-ce qu'on se prépare pour les séries. Est-ce que vous avez des alternatives, des propositions? Parce que là, c'est un peu soft en ce moment.
Je trouve que Slafkovský, c'est pas du papier sablé, ça.
Ouais.
Ben, c'est pas vraiment sa mission là, d'aller étendre.
Non, mais t'as pas besoin non plus d'avoir de... Tu sais, c'est un gars qui recule pas, qui braque, qui intimide les défenses avec son échec avant.
Tu dirais qu'il est intimidant?
Ben, va sur une patinoire dans un coin, puis regarde ce gars-là de 6 et 4, 220 livres, patiner comme un train.
Ouais, mais moi, si je me dis 6 pieds 5, puis je pèse
200. Ben, quand même, je peux te dire que quand tu vois ce cheval-là arriver, là, c'est pas évident, surtout que sa vitesse.
OK.
Moi, ma réponse, c'est que, pour compléter ce que Mathias dit, c'est que une présence sur la glace, c'est important. Laine, Doc, Slafkovský. Non, Laine, c'est pas du papier sablé. Mais il y a une présence.
Gros. Même Armia est gros. T'sais.
Armia est gros. T'sais, t'as quatre gars dont la présence sur la glace est très importante. Si tu regardes Kirby Doc, là, tu ne manques pas Kirby Doc.
À 6 et 4, là.
Tu t'en vas au Centre Bell, là, tu t'installes, là, puis t'as pas besoin de lunettes pour voir Kirby Doc.
Ben, là,
alors, moi, je te répondrais comme ça, en plus, évidemment, des Pezzetta, des Jack Eye, des gars c'est la qualité principale.
Mm-hmm.
Le problème du Canadien au fil des ans, c'est que l'équipe était trop petite. C'est peut-être pas une question nécessairement. De Gallagher, il était agressif et tout, mais ça demeure quand même un petit joueur.
Écoute, tu regardes Laine 6-5, Slafkovský 6-3,5, Doc 6-4, Armia, il doit être à 6-3, 6-4. Tu sais, à l'attaque, tu commences à être plus.
Je comprends en termes de taille, mais en termes de grit, on dirait qu'ils sont pas du tout.
Ben, pas du tout, là, je trouve ça fort.
OK.
Ouais.
OK.
Bon.
Okay,
c'est tout?
Bon. Ben oui.
OK. Trust the process. Simon, la semaine dernière, tu as commencé avec les espoirs des équipes de la division Pacifique. Évidemment, c'était sûr qu'avec les Sharks et les Ducks, tu allais commencer avec eux. Hein? On ne boude pas son plaisir. Est-ce que tu as un brin d'excitation pour les espoirs de la division centrale?
Je te dirais oui. Il n'y a peut-être pas des grandes vedettes qui vont sortir de là, ou en tout cas, il peut y en avoir, mais il n'y en a pas beaucoup. Sauf qu'il y a beaucoup de joueurs que je considère intéressants pour jouer peut-être sur des premiers trios, deuxième trio, et qui ont éventuellement une chance légitime de faire la Ligue. Alors, on va y aller, par ordre alphabétique.
Ouais.
On va commencer avec les Blackhawks de Chicago.
Bon.
Alors, les Blackhawks de Chicago, déjà, qui ont Connor Bedard.
Ouais.
Mais ils ont repêché Artem Levchunov cette année en numéro 2. Levchunov est blessé en ce moment, mais je pense que c'est un gars, s'il ne fait pas l'équipe à Chicago, va s'en aller dans la Ligue américaine, certainement, pendant un certain temps. Est-ce que je vois en lui nécessairement un potentiel joueur étoile? Non, je trouve qu'il a été repêché beaucoup trop haut, mais ça va être quand même être un solide membre du top 2, top 3 à la défense à Chicago.
Un genre de Yirichek ou meilleur? David Yirichek à Columbus?
Ben, Yirichek, je le trouvais très bon à son année de repêchage, meilleur que Levchunov, sauf que là, depuis ce temps-là, on dirait que ça a stagné un petit peu. Il y a quelque chose qui ne marchait pas à Columbus.
Ouais.
Là. Fait que là, il y a une nouvelle direction, on va voir. Mais pour le moment, c'est ça. C'est ça, je pense, de Levchunov. Ensuite, ben, il y a un autre défenseur, moi, que j'aime beaucoup depuis son année de repêchage. C'est Sam Rinzel. Sam Rinzel, qui avait été repêché en fin première ronde, il y a 3 ans. Il est finalement arrivé en Amérique. Il va jouer dans la Ligue, pas en Amérique, mais chez les pros. Il va jouer dans la Ligue américaine. Moi, je vois encore un gars qui pourrait être un défenseur 4, 5. Il patine, il a un bon physique, il a un certain talent offensif. Ce qui me déçoit, c'est qu'à date, il n'a peut-être pas développé autant que je pensais son talent offensif.
Okay.
Alors, on va voir à Rockford qu'est-ce qui se passe.
Fait que pour toi, là, un gars comme Korchinski, c'est plus un espoir, là.
Ben, étant donné qu'il non, a joué, parce qu'il a joué l'année passée. Mais ça, on peut le mentionner. C'est bien que tu le mentionnes.
Ben, parce que je trouve. Beaucoup de gens disent qu'il y a eu une année difficile. Je sais qu'il était jeune. Je ne sais pas si tu
gardes espoir.
Oui,
il y a eu une année
là,
difficile, ouais. Mais j'ai aucun problème avec ça. Il avait 19 ans.
Okay.
Il jouait dans une équipe vraiment de queue de classement. Alors, moi, je ne suis pas inquiet pour Korchinski. Est-ce qu'on va l'envoyer dans la Ligue américaine cette année, maintenant qu'on a le droit de le faire, ouais, à 20 ans? C'est pas impossible.
Et on a beaucoup parlé de Nazer au, oui, tournoi des recrues. Je ne sais, oui, pas si tu as regardé. T'as regardé, toi, quand même, des matchs. Ah, tu m'en parlais avant, là.
Oui.
Ça a l'air qu'il y avait des bonnes foules comme au Centre Bell.
Ah oui, oui,
là,
oui. 50 personnes, 75 personnes, 212 personnes. Des caméras mal placées, des arénas mal éclairées.
Ah oui, hein?
C'était vraiment pas un plaisir de regarder ça. Écoute, j'ai même pas été capable de toffer 5 minutes des Sharks.
Hein?
Avec Celebrini, Will Smith, Quentin Musty, Sam Dickinson. J'ai même pas toffé 5 minutes. On voyait rien.
Non.
Ouais.
Aïe, aïe, c'est tout dire.
C'est ça. Okay. Alors,
Only Montreal.
C'était pas là, la production d'un match de la LNH, bon, que RDS nous a donné.
Okay.
Là.
Okay.
Bon. Alors, c'est ça. Fait qu'à Chicago, ben, à l'attaque, il y a des joueurs intéressants pour faire l'équipe, puis éventuellement, peut-être jouer soit sur un deuxième trio ou un milieu d'aliment. Oliver Moore, Sacha Boisvert, Frank Nazer. Mais...
Ah oui, pote Nazer, tu le vois plus loin, toi. T'es pas un fan.
Je l'aime pas, je trouve qu'il est énergique. Okay. Je trouve que c'est une boule d'énergie. Je trouve qu'il a un certain talent, il lance, il est impliqué. Mais est-ce que c'est nécessairement un joueur de premier trio? Je ne sais pas.
Parce que Nazer, évidemment, j'en parle un peu, parce que c'est le joueur que les Blackhawks ont repêché avec, oui, le choix que le Canadien leur a offert pour Kirby Dach. Fait que c'est sûr que ça va être un peu associé tout le temps.
Ouais, moi, je vois peut-être un gars de deuxième trio.
OK.
C'est ça. Et puis, deux gars que je mentionne, dont on parle très peu parce qu'ils ont été repêchés en ronde ultérieure, un l'an dernier, un cette année. John Mustard, qui a été repêché par les Hawks cette année.
Que Pag aimait beaucoup.
Ouais. Oui. Ouais. Et puis, moi, je trouve que ça pourrait être une carte cachée éventuellement. C'est un joueur qui patine. C'est un joueur qui a beaucoup de talent offensif. Il joue dans les USHL. Il a été un bon producteur de points. Il va aller à l'université. Moi, je pense qu'éventuellement, c'est un joueur de la NH. C'est une trouvaille de ronde ultérieure. Et un autre qui patine comme le vent, ça serait probablement un des meilleurs patineurs de la Ligue nationale en ce moment s'il jouait. C'est Nick Lardis, qui joue dans la Ligue de l'Ontario. Okay. C'est un marqueur, c'est un patineur. Il n'a juste pas un gros physique. C'est un gars d'à peu près 165 livres en ce moment. Il va falloir qu'il prenne du coffre. Mais ça, c'est deux gars, d'après moi, à Chicago, qui pourraient brouiller les cartes éventuellement. Et bon. Dieu sait que les Blackhawks ont besoin de renfort à l'attaque. Parce qu'après Bédard,
il n'y a pas grand monde.
Il n'y a pas grand-chose. C'est juste, on a juste fait du rapiessage dans le but que Bédard ne joue pas avec des joueurs de la Ligue américaine.
Oui. Je ne suis pas encore convaincu de leur reconstruction.
Moi, disons qu'elle a baissé un petit peu dans mon estime par rapport à l'année passée, il y a deux, ouais, ans. Mais il y a quand même des joueurs intéressants. Sauf que là, le choix d'Alev Shunov, au lieu de choisir un gars comme Dimidov,
ouais,
je pense que ça pourrait les faire reculer.
Parfait.
Bon. Colorado.
Oui.
Colorado, la banque s'est beaucoup asséchée, hein, dans les dernières, bien, années. Sûr. C'est normal. Ils échangent leurs choix et tout. Mais je déteste pas, moi, le petit groupe qu'on est en train de former.
Ah.
Avec des gars comme Callum Ritchie, qui a été repêché en première ronde.
Ouais.
Le défenseur Mikhaïl Gouliaïev.
Et ça, c'est avec le choix que le Canadien a donné pour Newhook.
Exactement. C'est le choix de Newhook.
Et où, lui, il fait quoi?
Il joue dans la KHL. Il lui reste un an de contrat.
Puis, il fait-tu bien ou il,
oui, c'est un défenseur offensif qui, d'après moi, éventuellement, pourrait être un défenseur offensif de deuxième paire. C'est évidemment Kyle McCarr est indélogeable.
Oui, c'est sûr.
Mais ça va leur faire un peu de soutien, vu qu'ils ont échangé Bowen Byram l'année passée. Ouais. Un nom familier pour les vieux amateurs des Nordiques, Nikolaï Kovalenko.
Oui.
Qui est le fils de André.
Du Canadien, d'ailleurs, parce que c'est lui qui est passé au Canadien dans l'échange de Patrick Roy.
Exact. Lui, c'est un ailier droit, vraiment un joueur d'énergie. Un fatigant, une peste.
Comme son père, Nord-Sud.
Nord-Sud,
ouais.
Mais un gars, d'après moi, qui en série pourrait valoir son pesant d'or.
Okay.
Bon. Gardien de but, Ilya Nabokov, choix de deuxième ronde, qui a été le meilleur gardien de but dans la KHL l'an passé. KHL, il faut prendre ça avec un grain de sel, les gardiens.
Ouais.
Mais il y a quand même des bons Russes qui sont sortis de là.
Ouais.
Alors, il y a ça. Et puis, pour compléter, le meilleur joueur des écoles secondaires américaines l'année passée, William Zeller, qui, lui, s'en va à North Dakota. Ça, là, s'en allait à North Dakota. Le gars vient de passer un autre niveau dans son développement.
Un peu comme Michael Age à Michigan.
Michigan, exactement. Ensuite, on va aller à Dallas. Ça, on, ouais, va passer vite sur Dallas. Dallas, une équipe qui repêche bien.
Oui.
Depuis une dizaine d'années, là, vraiment exemplaire. Je pense que le meilleur espoir, c'est Maverick Bourque, meilleur marqueur de la Ligue américaine de hockey et qui devrait se tailler une place cette année avec la retraite de Pavelski. J'aime bien le défenseur Liam Bixel.
L'énorme défenseur.
Pas nécessairement un gars à prendre dans votre poule, là, mais sur la glace, je pense que ça va être une présence très imposante.
À 6-6, jouait au sein de la même équipe qu'Adam Engstrom. D'ailleurs, jouait plus qu'Engstrom. Jouait un rôle plus prépondérant qu'Engstrom.
En effet.
Plus jeune.
Il avait commencé l'année en Amérique.
Ouais.
Et il est retourné en Suède, mais là, il revient pour de bon.
Exactement.
Bon.
Et je crois que Logan Stankoven a encore le statut de
recrue. Ouais. Oui, un peu comme Joshua Roy, parce qu'ils ont joué moins que 25 matchs.
24 matchs.
C'est ça.
En saison régulière, voilà. Puis les séries, 18 matchs.
Mais lui, je ne le compte pas parce qu'il est déjà là. Là, parfait. Bon. Wild du Minnesota, plusieurs joueurs intrigants.
Ouais.
Mais le Wild, à un moment donné, va falloir, j'en parlais tout à l'heure, il va falloir qu'ils se sortent du fameux milieu de peloton. Et là, qu'est-ce que ça va prendre? Ils ne peuvent pas vraiment couler à pic pour aller chercher les premiers choix. Puis là, ils sont encore pris sous le plafond salarial par les deux rachats de contrats de Ryan Suter et Zach Parise.
Ouais.
Là, c'est la dernière année que ça leur coûte 14 millions d'argent. En football américain, on appelle ça « dead money
».
Finalement, de l'argent mort, de l'argent qui ne sert à rien.
Ouais.
C'est la dernière année, mais il va falloir que ce 14 millions-là soit utilisé à bon escient.
Okay.
Alors, ceci étant dit, ben, ils ont un des meilleurs gardiens de but, un des meilleurs espoirs dans les buts, Jesper Wallstedt, qui est en train de mariner dans la Ligue américaine. Il va remplacer Fleury quand Fleury va prendre sa retraite l'an prochain.
Wallstedt ou Askarov? Ah!
Meilleur potentiel de devenir un gardien de but étoile, Askarov. Valeur plus sûre, Wallstedt.
OK, intéressant. Bon.
Alors, réponse au politicien.
Je pense que... Ouais, c'était bon.
Ziv Bouyum. Oui. Qui, lui, va probablement devenir un défenseur de première paire au Minnesota. Très bon talent offensif, quand même pas pire défensivement. C'est un gars qui a chuté au 12e rang. Mais tu sais, on l'avait dit, il y avait 12 joueurs là, qu'on savait pas mal qui sortiraient dans les 12 premiers.
Ouais.
C'était évident qu'il y en aurait qui seraient choisis 12e et que là, on dirait comment ça se fait qu'il a chuté.
Ouais.
Ça aurait pu être n'importe qui.
Comme Daniel Briard m'avait dit en entrevue à Philadelphie il y a quelques semaines aussi, ils ont préféré le centre.
En prenant... c'est ça. Lutschenko.
Ouais.
Bon. Danila Yurov, un Russe repêché en première ronde en 2022. Toujours pas sous contrat. Il était dans l'équipe championne de la KHL l'an passé. Il a très bien joué. Un dynamo offensif. Est-ce que ça peut être aussi bon que Kaprizov? Je pense pas, mais ça pourrait s'apparenter. Mais il vient pas
non.
pour le moment.
Il y en a un qui vient.
Liam O'Gren.
Oui, c'est pas lui que je pensais, mais oui.
Ah, Kuznetsov.
Oui.
Oui, il est arrivé l'an passé. Mais Kuznetsov, je crois, avec son physique et le fait que, bon, il est habile, mais tu sais, quand un joueur est habile, mais qu'il n'a pas un gros physique, il faut vraiment qu'il soit habile.
Oui.
Puis je pense pas qu'il soit assez habile pour se tailler une place sur un top 6. Puis je ne sais pas si tu peux le mettre sur un quatrième trio, peut-être un troisième trio.
Bon. Et O'Gren, ça fait partie là, des trois joyaux repêchés au premier tour en 2022 avec Oslund et Lekkerimäki.
Les trois joueurs de la Suède qui jouent ensemble à l'époque.
Ouais, tu le situes où par rapport aux deux autres, toi?
Je te dirais que c'est le plus avancé.
Ouais.
Mais c'est pas nécessairement celui qui a le plus gros potentiel, mais c'est peut-être encore là la valeur la plus sûre des trois.
Okay.
Parce qu'Oslund est meilleur offensivement, mais il est plus petit.
Ouais.
On va voir cette année, Oslund
va jouer à Rochester. Buffalo,
quand on va faire le tour de la division du Canadien, on va en parler.
Okay.
Et un joueur décevant que je mentionne, puis d'après moi j'ai abandonné, Charlie Strammel, choix de première ronde de 2023, 8 points en 34 matchs à l'Université du Wisconsin. Vraiment, le gars, il est gros. Mais...
Non, NCAA, il faut que tu produises. Là.
Oui, oui. Alors là, on se dirige vers un joueur soit de la Ligue américaine ou de quatrième trio. Tu sais, on pensait peut-être que ça serait un genre de Charlie Coyle.
Ouais.
Mais non, ça ne sera pas Charlie Coyle.
Ça, c'est un choix de fin de...
21e.
Ah, oh, quand même assez tôt.
Quand même
là.
21. Mais c'était un gars qui, au début de l'année, était perçu comme un possible top 5.
OK.
Mais il n'a pas produit. Alors là, ça a fait peur. Et là, il a descendu. Et là, je pense que si on faisait un repêchage de 2023, je pense qu'il serait pas en première ronde.
Peux-tu me rafraîchir la mémoire? Est-ce qu'il est encore à l'université cette année?
Oui.
Fait qu'il peut-être qu'ils le signeront même pas, là.
Ben, ça m'étonnerait.
Ils vont avoir une compensation.
Oui, mais là, la compensation, c'est un choix de deux.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Ben, tant qu'à...
Ouais, mais il y a quelqu'un, à un moment donné, tu sais comment c'est, Mathias. Ouais. Un directeur gérant va se dire, chez nous, il va produire. Ouais, c'est un ancien choix de première. Ouais. Ces gars-là, on a vie. Bon. Nashville. Petit bassin intriguant.
Oui.
On va commencer par Joachim Kessel, premier choix de 2022.
Kamel, hein? Kamel.
Kamel.
Pas Kessel.
Oui, Kessel, Kamel, ouais. Excuse-moi.
Kessel, là, c'est un autre genre.
Oui. 16 buts, 25 passes en 67 matchs dans la Ligue américaine à 19 ans.
C'est bon, ça.
Moi, j'aime ça.
Ouais.
Alors, éventuellement, c'est un gars qui va faire sa place sur un top 6 à Nashville.
Et Kamel, juste pour élargir la parenthèse, c'est qu'il y en a certains à l'aube du repêchage de 2022 qui le voyaient dans le top 5.
Oui.
Puis il a reculé pas mal, là. Oui. Toi, t'es sioux par rapport à Kamel, qui est un petit allié...
Ben moi, il me semble que je l'avais à peu près là, à peu près au milieu de la ouais. première ronde.
OK.
Je l'aime bien, puis d'après moi, ça pourrait être un bon joueur de deuxième trio.
OK, bon. Quand même.
David Edstrom, qui a été échangé deux fois. Repêché par Vegas, échangé à San Jose, en retour de Thomas Hertel,
ouais.
entre autres, et échangé ensuite à Nashville en retour d'Askarov ouais. avec un premier choix. Edstrom, typique. Je l'ai comparé à Philip Bystead de San Jose. Typique joueur de troisième trio qui va jouer des matchs impeccables sur 200 pieds,
ouais.
mais qui n'a pas le talent offensif pour jouer sur un top 6, mais qui va pouvoir contribuer.
Bon, pour un 30e ou 31e,
ben,
ça va.
C'était à ça qu'on s'attend. Bon. C'est ça. Fedor Svetkov, un autre Russe, mais qui est venu dans la Ligue américaine à l'âge de 20 ans. 39 points en 57 matchs. Svetkov, un autre joueur complet,
ouais.
Qui probablement un futur joueur de troisième trio, ouais. mais un bon joueur de troisième trio. Donc, on voit que le milieu de l'alignement de Nashville est intéressant. Là, on ouais. a signé des grosses vedettes à court terme. Stamkos, Marchessault, on a Forsberg. Et éventuellement, ces gars-là, d'après moi, pourraient prendre leur place au milieu de l'alignement. Mais pas nécessairement remplacer là, les meilleurs joueurs.
Me permets-tu d'ouvrir une parenthèse? Ouais. Parce que tu parles d'un joueur russe, puis j'ai souvent dans ma boîte de courriel des gens qui s'indignent du fait qu'on commente ou qu'on parle de joueurs russes ouais. en raison de la situation géopolitique.
Ouais.
Nous, évidemment, il y a des joueurs de la Ligue nationale. On leur permet de jouer dans la Ligue nationale, on leur permet de jouer dans la Ligue ouais. américaine. Ils sont dans la réalité.
Ouais.
Du monde du hockey, on ne peut pas censurer.
Non.
C'est pas notre rôle, puis on va pas se prononcer, même si on devine qu'est-ce qu'on pense de la guerre. Mais nous, on parle de joueurs de hockey. Et
les gars sont ici.
Ils sont ici. Ben alors, oui. on en parle. Juste.
Ils sont pas ici illégalement. Là.
Fin de la parenthèse.
C'est ça. Matthew Wood,
ouais.
Université du Connecticut, 28 points en 35 matchs. Choix numéro 15 en 2023. Mathieu Wood, je l'aime
hein,
beaucoup.
UConn?
Non.
Non, il a signé.
Transféré à Minnesota.
Ah, il reste dans l'NCAA.
Et Minnesota
ouais.
est une puissance.
Ouais.
Alors, il reste dans l'NCAA, ça va à Minnesota. Ça pourrait être excellent pour son développement. Ouais. C'est un gros joueur qui a des habiletés, qui est bon marqueur. Alors, vois-tu un autre possible ouais. joueur de deuxième trio que j'aime bien?
Parce que UConn, là, écoute, c'est bon basket au football, mais c'est pas un gros programme de hockey. Il n'y en a
non.
pas eu beaucoup là-bas. Là.
Non.
Je pense qu'il y a eu
Il n'y a vraiment pas eu grand monde.
C'est sûr.
Puis, mais lui, vraiment un bon geste de sa part. Deux autres joueurs que je voulais mentionner, Teddy Stiga.
Ouais.
Un de mes
coup de cœur
hein, ouais, ouais. du repêchage 2024 qui est sorti en deuxième ronde. Encore là, un joueur bon sur 200 pieds, agressif, travaillant ouais. et avec un certain talent offensif, pas un gros physique, peut-être un troisième trio. Et finalement, ben, le Québécois Zachary Lheureux.
Oui.
Choix de première ronde en 2021, 27e au total, 48 points en 66 matchs à Milwaukee,
ouais.
à 20 ans. Zachary, l'histoire avec lui, c'est que c'est un gars qui a un tempérament très fougueux et ça lui coûte parfois des expulsions, des suspensions, et ça depuis le hockey junior.
Un peu comme toi, finalement.
Oui, c'est ça.
Okay.
C'est un bad boy
okay.
sur la glace. Et puis, moi, je l'aime bien. Puis, je pense que... Ben oui, ça t'en prend dans une équipe ouais. comme ça.
Ben, c'est sauf ce que je me suis dit pour le
je pense qu'à un moment donné, il faut que tu doses ça. ouais. Puis, en vieillissant, ben, tu sais, ça va aller. Comme moi, je me suis assagi depuis 15 ans.
Ouais, quand même un peu.
C'est ça. Écoute, tu m'as même traité de fafane la semaine
passée.
Mais je
t'ai jamais dénaturé.
Non, mais tu m'as traité de fafane la semaine passée.
Ben, avec raison.
En tout cas, Dixie, celui qui croyait au reset de Marc Bergevin. Bon, on continue.
Bon.
Saint-Louis.
Ça te fait plaisir.
Ben, ça me fait plaisir, bon. Oui. Alors, on continue avec Saint-Louis. Saint-Louis, Jimmy Snuggerud, un espoir qu'on a vu au championnat mondial junior, qui est très bon. Vois-tu, lui, il retourne à Minnesota, à l'Université du Minnesota pour sa troisième année. Ça, là, quand le gars retourne une troisième année puis que c'est un choix de première ronde, ça commence à sentir mauvais.
Parce Pensons à Rutger McGrory.
Il
ça.
Veut peut-être pas signer. On n'a pas eu de nouvelles de personnes qui est branchée, là, comme les Friedman et compagnie, mais je trouve ça... Moi, ça sent mauvais pour moi.
Est-il surévalué un peu?
Ben, ça dépend de ce que tu t'attends de lui.
Ben, il y en a qui le voient comme gros attaquant de puissance. Là.
Moi, je le vois gros attaquant. Non, moi, je vois gros attaquant de puissance, mais pas une vedette.
OK.
Bon. Dalibor Dvorsky, choix de numéro 10 en 2023. Ouais. Dalibor qui a pris la sage décision de venir jouer dans la Ligue junior de l'Ontario.
Ouais.
À Sudbury, avec comme compagnon de trio David Goyette et Quentin Musty. Je
ne connais pas.
Bon. Très bonne saison. Dvorsky, j'avais mes réserves. Je trouvais qu'il avait été repêché un peu trop haut. J'ai encore mes réserves. Ouais. Je pense que David Goyette a fait beaucoup pour lui l'an passé. Musty, d'ailleurs, a profité de la présence de Goyette. Je suis très honnête. Goyette, qui a été repêché par Seattle l'an passant, qui devrait jouer dans la Ligue américaine cette année. Et puis, Dvorsky, là, je pense qu'il retourne à Sudbury, mais il serait admissible pour jouer dans la Ligue américaine. Alors, je ne sais pas si on va prendre une décision à cet effet-là prochainement. Qui a terminé la saison à Saint-Louis, que j'ai bien aimé, Zachary Bolduc,
ben oui.
L'ancien des Remparts. Lui, d'après moi, ça peut être un solide joueur de milieu d'alignement. Premier choix de cette année, Adam Hryček. Qui était perçu comme un possible top 5. Il est sorti 16e parce qu'il a été blessé. Ouais. Il a été blessé la première période du championnat mondial junior, n'est plus revenu au jeu. Défenseur offensif un peu dans le genre de son frère. Alors, encore là...
David.
Oui. Bon joueur, pas une vedette, mais bon joueur. Et je termine avec deux joueurs. Otto Stenberg, qui joue en Suède à Malmö. 25e au total en 2023. Moi, je l'aime beaucoup.
Ah oui, hein?
Oui, je pense que lui, quand on va faire un repêchage de 2023, il va monter.
OK.
Oui, alors pour le moment, il est encore à Malmö, mais ça ne devrait pas tarder son arrivée en Amérique. Et une petite carte cachée ici.
Oh, on aime les cartes cachées.
Un gars que j'aimais, moi, à l'âge de 16 ans, et puis qui était supposé venir jouer junior au Canada.
Ouais.
Je l'avais recommandé au Phare de Val-d'Or. Et au moment où tout a été mis en place pour qu'il s'en vienne en Amérique, et il y avait d'autres équipes qui avaient l'œil dessus, le gars a dit « je vais rester à la maison ».
Bon.
Alors, il est resté dans son pays. Mais ce n'était qu'à partie remise. Parce qu'il est venu jouer dans la USHL. Et là, cette année, il est à Moncton.
Ah.
Dans la Ligue de hockey junior Québec-Maritime. Alors, oui, il va avoir 19 ans. Oui, c'est normal s'il domine. Mais je vais quand même le suivre avec intérêt parce que, pour moi, c'est un choix de troisième ronde qui a une chance de faire la LNH.
Est-ce qu'on peut avoir son nom?
Juraj Pekarčík, je l'avais nommé.
Ah oui?
Je crois.
Oui. L'a-t-il nommé?
Je n'avais pas entendu.
Bon, j'ai
bon,
dû...
alors je m'excuse.
C'est peut-être moi qui écoutais
c'est
pas.
C'est Juraj Pekarčík.
OK. Bon.
Alors, désolé pour les auditeurs et pour toi, Mathias.
Ben, c'est peut-être moi, là, je ne sais pas.
Ben, des fois, je m'emporte. Là, quand je les aime, là, je
ben,
les
là, j'ai vu ça. Tu l'aimes, tu l'aimes beaucoup.
Il nous reste deux équipes.
Oui.
Utah.
Oui.
TJ Ginlaw, évidemment, premier choix cette année.
Il ne fera pas l'équipe cette année, là.
Non, d'après moi, non. À moins qu'on veuille mettre un nom en partant.
Marketing.
Peut-être qu'on pourrait le garder, Mathias, au mois d'octobre. Ouais. Jouer 9 matchs.
Ça arrive souvent.
Parce que physiquement, il est capable.
Ça arrive souvent. Ouais.
On pourrait le garder pour quelques matchs, mais je pense qu'il n'y a pas d'affaire là cette année. Deux Russes, Dimitri Simachev, choisi sixième en 2023.
Devant Mishkov.
Et son coéquipier avec Lokomotiv dans la KHL, Daniil But, un ailier gauche, repêché 12e.
Avec le choix des Sénateurs d'Ottawa pour Jakob Chychrun.
Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu, mais la KHL, c'est une boîte à surprise quand les gars arrivent ici. Premier choix de cette année, Cole Beaudoin. Très décevant comme choix en fin de première ronde. Pour moi, c'est... Oui, il va faire la Ligue nationale, mais joueur vraiment très drabe, là. Pensez Jordan Staal en moins bon. Alors, Jordan Staal valait son pesant d'or, mais c'était quand même... C'était pas le joueur le plus excitant, là. C'est pas le joueur le plus excitant.
Ouais.
Imaginez une version des pauvres de Cole Beaudoin, de Jordan Staal. On a... Il y a Josh Doan, le fils de Shane.
Ouais.
Pourrait jouer. Québécois, Maverick Lamoureux, qui malheureusement a été blessé l'an dernier, défenseur de 6 pieds 7.
Semble-t-il qu'il y a eu un très bon tournoi des recrues.
Bon.
C'est ce que j'ai entendu.
Ben, tant mieux. Ouais. Parce que il a été, c'est surtout la récupération après sa blessure. Ouais. Drummondville s'est rendu en Coupe Memorial. Malheureusement, il n'a pas pu jouer. Ça, c'est vraiment plate. Défenseur de 6 pieds 7, Mathias, j'ai mes réserves.
Ouais.
C'est grand. L'histoire en a montré qu'ils ont réussi, qu'ils n'ont pas réussi. Je ne sais pas. Si Maverick fait la Ligue, évidemment, ça va être dans un rôle défensif.
Ouais.
Peut-être un cinquième ou un sixième défenseur, okay. Mais il va avoir besoin d'une coupe d'année dans la Ligue américaine. Et le gardien Michael Rabal, qui s'en va à l'Université du Massachusetts. Très bon geste de sa part de quitter son pays
ouais.
pour s'en aller à l'Université du Massachusetts. Un bon. Et ça compense pour le fait qu'on a échangé un de mes préférés, Connor Geeky, dans l'échange de Michael Servachev. Mais ça te prouve quand même une chose. C'est que M. Brisebois t'aime pas. Devait avoir Geeky en haute estime.
Et M. Darche.
Si oui. il était la pièce maîtresse d'un échange ouais, impliquant Sergachev.
Moi aussi, mais ça devait être une pièce maîtresse quand même. Oui, oh, oui. Non, non, ça va être intéressant de suivre là,
oui, parce
ces
que
joueurs-là
là,
avec
oui,
cet
puis à un moment donné, t'aimes
là,
pas là, avec leur coincé sous le plafond. À un moment donné, il va falloir qu'ils donnent de la place à des jeunes.
Exact.
Alors, d'après moi, Geeky va commencer dans la Ligue américaine, mais je serais pas surpris que l'an prochain, il joue à Tempa et qu'il cartonne.
Et j'imagine que cet été, il a pris des cours de patinage de puissance hein,
on
gagner
l'espère.
Un peu en vitesse.
Parce on que l'espère. Sinon, mais comme je t'ai dit, les joueurs, la semaine dernière, les joueurs souvent de ce physique-là, on a l'impression qu'ils n'avancent pas,
c'est sûr.
Mais ils avancent.
Mais tu vois, Braden Point, je ne sais pas si Mme Barbara Underhill est encore à l'emploi de Tempa, mais c'est elle qui a fait des miracles avec Braden Point à l'époque. Alors, si elle était encore dans
et
les Geeky, barrages...
Et Geeky, c'est un gars qui a une bonne attitude.
Ouais, c'est ça.
Alors, avec ça, j'ai pas d'inquiétude pour lui. On termine avec les Jets.
Ouais.
Les Jets qui ont... Je trouve toujours qu'ils ont bien repêché, moi. En général.
Ouais.
Tu penses là au Josh Morrissey, puis Cole Perfetti, puis tous ces gars-là.
Perfetti,
puis...
oui, c'est lui qui...
Oui, mais il est parti dixième, là. Faut que tes attentes soient...
Dixième, c'est quand même tôt.
Oui, mais moi, j'ai encore confiance en Perfetti. Pour jouer sur un deuxième
parce que les autres, oui, là, Connor, Morrissey, tout ça, et Trouba à l'époque.
Nick Ehlers.
Mais oui. Mais
Perfetti,
pas sûr encore.
Colby Barlow, 40 buts l'an passé à 18 ans, 50 matchs,
ouais.
un premier choix. Lui, il est vraiment pas loin de la LNH.
Junior, ouais.
Et là, on est allé chercher Braden Yeager en retour de Rutger McCourty. Écoute, on était obligé d'échanger McCourty, malheureusement. Moi, je préfère McCourty.
Okay.
Mais on a quand même sauvé les meubles en allant chercher un joueur qui a un certain potentiel. Je dirais peut-être de deuxième trio et marquer peut-être, je ne sais pas, une vingtaine de buts éventuellement. Un joueur que j'aime bien dans la Ligue américaine, Nikita Chibrikov. Repêché, je crois, 50e il y a 3 ans. Encore là, j'aime ça quand un Russe arrive de bonne heure dans la Ligue et qui est prêt à venir jouer dans la Ligue américaine.
Bon.
Il n'y a pas de « Ah, ben si, tu sais, les Suédois, là, ah, ben si je joue pas dans la Ligue nationale, vous me retournez dans mon pays. Ouais. Ils ont cette clause-là. Moi, je déteste ça.
Ouais.
J'aime ça quand un gars est dédié et se dit, si j'ai besoin de faire mes classes dans la Ligue américaine, je vais prendre mes bagages et je m'en viens dans la Ligue américaine. Alors, c'est pour ça que,
et toi, j'aime bien quand tu détestes, tu détestes.
Oui.
Bon.
Chas Lucius, qui a été blessé,
ouais.
déteste pas. Un talent de marqueur, mais ça, pas mal de joueurs semblables à Winnipeg. Kevin He, qui a été repêché 109e cette année, qui pourrait être une carte cachée. Mais dans tout ça, ils ne seront pas tous bons. Mais je pense qu'il y en a qui vont ressortir du paquet et d'autres qui pourraient servir de mauvaise monnaie d'échange.
Ouais.
Un peu comme les Sabres de Buffalo qui ont échangé Mathieu Sabois
ouais.
pour combler un besoin. Bon, mais tu sais, à un moment donné, c'est ça. Et finalement, ben, une discussion sur Winnipeg ne serait pas une discussion sur Winnipeg sans le fameux Brad Lambert.
Ah, ben oui.
Brad Lambert, à son année à l'âge de 15-16 ans, était perçu comme un gars qui pourrait challenger pour la première place, le premier rang du repêchage. Et là, au fur et à mesure que les années passaient, il baissait. 5e, 10e, 15e, et finalement, il est sorti en fin première ronde, je crois, 29. Ouais. Il est finalement arrivé dans la Ligue américaine l'an passé. Il y a eu des belles statistiques, il y a eu des beaux flashs. Mais moi, je répète ce qui me dérange de Brad Lambert. Et je le répète.
Le mot avec le P.
Il y a des périodes où il est le meilleur joueur sur la glace par beaucoup et que tu dis « Wow, ce gars-là, c'est un premier trio dans la LNH. » Et il y a des périodes, à un moment donné, où tu le cherches. Puis là, tu regardes ta feuille d'alignement puis tu dis « Peut-être que j'ai oublié son numéro. »
Ouais. Et moi, le mot en P, c'était périphérie. Est-ce que tu le trouves moins en périphérie dans la Ligue américaine?
Bien, il est gros, hein?
Ouais.
Alors, à ce moment-là, des fois, un joueur de périphérie, quand il est gros, ben, au moins, il peut brasser sur le bord de la bande.
Ouais.
Mais moi, c'est pas vraiment ça qui me dérange chez lui. Okay. C'est l'inconstance. Puis à un moment donné, l'inconstance, c'est on blâme ça souvent sur les joueurs. Mais à un moment donné, les joueurs arrivent à 26 ans, puis on est encore. Ben, s'il était plus constant. Ben, à un moment donné, là, quand ça fait 5 ans que tu dois dire que tu es plus constant, ben, peut-être que tu n'es pas si bon que ça. Bon. C'est comme quand tu joues au golf. Tu fais une ronde de 80, mais après ça, tu joues 4 fois 90. Ouais. Ah, ben, j'ai pas été constant. Ben non, mais peut-être que tu es un joueur de 90.
Parce que tu as un T-shirt de Pebble Beach que tu nous parles de golf pour la première fois de ta carrière?
Non, c'est parce que je fais des amalgames avec les autres sports parce que tu sais, Mathias, j'aime beaucoup suivre les autres sports et j'aime ça de temps en temps faire des petites comparaisons avec le hockey.
Parce que là, j'ai dit, il y a peut-être eu un abonnement gratuit à Pebble Beach puis il fait son homme sandwich. Là.
Non, mais non, ils connaissent pas le processus à Pebble Beach. J'ai déjà joué beaucoup, mais ça fait longtemps que je joue plus.
Bon, mais je vais t'amener. Ça devrait être drôle. Ouais. On parle pas. Hein. On va essayer de ne pas parler.
Ça pourrait être drôle. Tu aurais trouvé ça moins drôle il y a à peu près 30 ans.
Ah oui?
Mais là, tu aurais trouvé ça moins drôle. Là, tu vas trouver ça drôle.
Ah oui?
Ben moi, il y a 30 ans, j'étais 8 d'handicap.
Hein?
Il y a 30 ans.
Écoute, c'est une découverte.
Oui, oui, mais là, j'ai joué...
8 d'handicap?
Oui, mais j'ai joué il y a quelques années, puis j'ai fait 96.
Non, non, mais...
Parce que là, ma game était plus...
OK, toi, quand t'embarques dans quelque chose, là, c'est à fond, là.
Ouais, mais à un moment donné, je suis passé à d'autres choses dans la vie, fait que...
Tag! Snake, un golfeur! Si tu m'avais dit ça...
Ouais, mais là, comme je t'ai
dit... Chose que t'as pas fait.
Je suis pas l'ombre de moi-même, là.
Ouais, quand même.
Invitez-moi pas à vos tournois de golf, là.
Je vais te corriger. T'es plus que l'ombre de toi-même. T'es plus que ton ombre, mais tu n'es plus que ton ombre.
Pierre, le regretté Pierre Infray m'avait invité au tournoi de 99 il y a quelques années.
OK.
Puis j'étais occupé, pour vrai, mais j'étais content d'être occupé.
Bon.
Certains diraient que le serpent a mué.
Bon, ben merci pour ce troisième bloc. Puis, Colin, surpris.
Pourquoi t'es surpris?
Tu joues au golf, toi.
Ben, je parle pas de toute ma vie, moi.
Ben non, on y arrive.
Trust the process.
Trust the process.
Bon, on va conclure cet épisode 2. Avec quelques questions de nos auditeurs. Trois, comme on fait d'habitude. Puis on se garde les autres pour l'émission de fin de semaine, vers la fin de vendredi matin. Première question de Jacob Lapointe. Le Snake était tellement en amour avec Quentin Musty, il n'en a presque pas parlé durant le passage sur les Sharks. J'aimerais qu'il nous fasse une analyse actuelle de son développement.
Oui. Quentin Musty... Pour la petite histoire, samedi a eu droit au but de passe dans un match des recrues. Mais ce qui est bon pour Pitot est bon pour Minou. Alors, si je n'accorde pas d'importance à ce que tel ou tel joueur fait, ben, je ne peux pas en accorder plus à Musty. Cependant, Musty, l'an passé, à Sudbury, a joué sur un gros trio avec Dalibor Dvorsky et David Goyette. On vient d'en parler. Je pense que lui, ce qu'il doit améliorer, il y a le jeu défensif, mais ça, c'est le cas de beaucoup de joueurs de son âge offensif. C'est peut-être le rythme du jeu. Il doit, tu sais ce qu'on appelle en anglais « the pace of play
».
Lui, il doit être capable de suivre le rythme et puis de peut-être améliorer son jeu de pied, bouger un peu plus sur la glace. Le jour où il va faire ça, je pense qu'il va cartonner et je crois qu'éventuellement, il va être un joueur de premier trio à San Jose.
Bon. Joseph Senior. Est-ce que Simon a toujours Celebrini avant Demidov?
Oui. Oui. Parce que Celebrini, c'est le gars qui va transporter une équipe. C'est le joueur de concession à la Jonathan Toews, à la Crosby. C'est vraiment... Il y a comme un aura autour de lui, en plus de ses talents offensifs. Alors oui, je l'ai et ça enlève absolument rien à Demidov.
OK. Je sens Gilbert Ouellet un peu déçu. Concernant les Sharks, aucun mot sur Thomas Bordelot.
Oui.
Dois-je en conclure qu'il est inintéressant?
Non, il n'est pas inintéressant. Cependant, Bordelot est pris un petit peu dans une situation semblable à celle de joueur dans son style.
4A?
Non. Je te dirais pas assez bon offensivement pour les deux premiers trios. Mais n'a pas nécessairement les caractéristiques requises pour jouer sur un troisième ou un quatrième trio. Cependant, voici où j'en suis. Ce qui lui nuit vraiment à Bordelot, c'est qu'il est avec les Sharks.
Ouais.
Parce que les Sharks, là, le top 6, là, il est à veille là, d'être vraiment congestionné. Bordelot, moi, je crois, va être échangé éventuellement et pourrait se retrouver dans une équipe. J'imagine peut-être une équipe qui a un trou dans son top 9. Et qui pourrait le faire jouer sur un troisième trio. Mais pas nécessairement un troisième trio défensif ou robuste, mais un troisième trio où on espérait qu'il génère un peu d'attaque. Mais ça n'arrivera pas à San Jose parce qu'à San Jose, ça va tellement déborder qu'il y a des joueurs de deuxième trio qui vont devoir jouer sur le troisième. Alors, je pense qu'à Bordeaux, les carottes sont cuites pour lui à San Jose, mais les carottes ne sont pas cuites pour lui dans la Ligue nationale de hockey. C'est un joueur que j'aime bien, mais qui est difficile à caser.
Bon. Merci, Simon. Écoute, on a passé les questions, mais je pense qu'on a eu beaucoup de matière avant ça. Là. On a plus d'une heure. Merci, Simon. Merci, Pag.
Merci, les gars. C'était vraiment le fun.
Ben oui. Puis on se retrouve pour ceux qui sont là vendredi. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine.
Voilà.
Salut, messieurs.